Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Julie Kuckermann. Après avoir été sportive de haut niveau puis entraîneuse des équipes de France pour les JO, Julie a tout plaqué du jour au lendemain pour se concentrer sur sa vie de famille. Aujourd'hui, elle est maman et entrepreneuse avec sa plateforme Move with Julie. Avec une mère championne, le destin de Julie était tout tracé. Elle devient championne de France de gymnastique à seulement 10 ans, puis dans le top 30 junior française en tennis. Julie devient finalement préparatrice sportive des sportifs de haut niveau. Elle entraîne l'équipe de France d'escrime pour les JO de Londres en 2012. En 2016, à un an des JO de Rio, Julie arrête tout pour se consacrer à sa vie de famille. À 28 ans, elle se rend compte qu'elle rêve avant tout de fonder une famille plutôt que de courir après une carrière. Elle plaque tout alors qu'elle n'a ni conjoint ni enfant. Julie rencontre finalement son mari un mois après et fonde la famille dont elle rêvait. Aujourd'hui, Julie est personal trainer pour une clientèle de luxe à la montagne. Elle a également fondé sa plateforme Move with Julie avec des cours en ligne pour rendre sa méthode accessible au plus grand nombre. Sa méthode mélange renforcement des muscles profonds, exercices de yoga et de pilates et de stretching. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Julie. Bonjour Julie, bienvenue dans Oser la reconversion.
Salut Clairvie, ravie d'être là.
Alors, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Julie Kuckermann, j'ai 37 ans, j'habite à Serre-Chevalier, voilà la jolie station de ski. Je suis coach sportive, voilà, je suis très axée sur le bien-être. Et voilà, tout ça c'est pour le côté professionnel. D'un côté un peu plus personnel, j'ai deux enfants, une petite fille de 7 ans et un petit garçon de 5 ans. Et en fait, je suis originaire de la région parisienne. Donc j'ai eu une première partie de carrière, je pense qu'on reviendra dessus, à Paris, où j'ai été entraîneur d'équipe de France que j'ai préparée pour les Jeux Olympiques.
Oui, alors c'est en plein dans l'actualité et puis je suis aussi super contente parce qu'on n'a jamais eu encore de sportif de haut niveau ou d'entraîneur de sportif. Alors, est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu t'es mise au sport et puis surtout à ce niveau-là ?
Ouais, bien sûr, c'est vrai que c'est en plein dans l'actualité avec les Jeux qui arrivent à Paris. Moi, je suis issue d'une famille de sportifs. Mon papa était maître nageur, ma maman a été championne de France de kayak. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans le sport. Mon premier sport, ça a été la GRS, la gymnastique rythmique avec les ballons, massue, cerceau, etc. Un sport que j'adorais. J'en ai fait beaucoup de 6 à 10 ans. J'ai été championne de France à 10 ans. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.
Incroyable.
Ouais, bon, j'étais petite, mais c'est quelque chose qui marque. C'était vraiment très sympa.
Tu avais commencé à quel âge pour être championne à 10 ans ?
5 ans et demi, par là, ouais, voilà.
Est-ce que tu avais la pression un peu de la maman ? C'est un peu comme on voit parfois à la télé avec les entraîneurs parents.
Ouais, un peu fou. Non, pour le coup, pas du tout. Non, j'ai baigné dans cet univers sportif où dès toute petite, avec ma sœur et mon frère, on était au bord des terrains de sport avec nos parents. Mais c'est, pour le coup, ça a toujours été très, très sain dans la famille. Nos parents nous ont donné des bases sportives, mais sans l'école était aussi très important puisque ma maman était institutrice. Donc, l'objectif n'était pas de faire une carrière professionnelle. Voilà. Et puis après, je faisais aussi du tennis et puis j'ai choisi le tennis parce que je pouvais pas continuer à faire de la GRS et du tennis de sport à haut niveau. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tennis. J'ai eu un bon niveau. Pour ceux qui connaissent, j'ai été classée 0. Donc, j'étais en gros dans les 30 meilleures joueuses françaises de mon année d'âge. Voilà.
Et alors, comment ça s'est arrêté ? Parce que donc, du coup, t'es jeune, t'es super bien classée. Tu te dis que tu vas faire ça toute ta vie, sportif de haut niveau ?
Non, pas du tout. En fait, j'avais un bon niveau, mais par contre, ça a toujours été très clair que ce serait les études d'abord. Donc, en fait, ça s'est essoufflé un petit peu naturellement. J'ai eu mon baccalauréat, je suis partie en fac de sport parce que les études, c'était important, mais je ne me voyais pas faire autre chose que des études dans le sport. Et donc, en fait, c'est là que les études ont pris le pas sur ma carrière sportive. Donc en fait, c'est, quelque part, c'était une jolie transition parce que j'ai un peu ralenti le sport pour moi, mais je suis passée côté études dans le sport.
Ouais, on peut pas faire des études et en même temps être sportif et faire que ça en fait. Enfin...
Bah, au très haut niveau, c'est compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui le font, notamment des sports où il n'y a pas énormément d'argent et où tu sais que tu es obligé de faire des études pour préparer ta reconversion. Mais être vraiment focus sur les deux, c'est compliqué.
Et donc, tu es devenue entraîneuse ? Comment ça s'est fait ?
Ouais, alors j'étais plus exactement préparateur physique, c'est-à-dire que moi je m'occupais de toute la partie musculation, course, en fait, je préparais les athlètes physiquement pour qu'ils soient au top de leur niveau dans leur sport. Moi ça a toujours été mon rêve, j'ai toujours été passionnée par le côté goût de l'effort, dépassement de soi, voilà, je pense que ça allait bien avec mon caractère. Donc voilà, j'ai toujours voulu faire ça, je suis partie en fac de sport. J'ai fait un master 2 à l'INSEP qui est le lieu où s'entraînent les équipes de France de tous les sports olympiques, donc pour préparer les Jeux olympiques. Et puis c'est comme ça que petit à petit, bah en fait, à l'issue de mon master 2, j'ai eu la chance d'intégrer ma première équipe de France, qui a été l'équipe de donc en tant qu'entraîneur, hein, préparateur physique, qui était l'équipe de France d'escrime.
Et c'est marrant parce que je pensais que c'était plutôt kiné ou comment ça se distingue en fait entre fac de sport par exemple et fac de kiné pour devenir préparateur sportif ?
Alors les kinés sont vraiment plus sur le pôle médical, tu vois, pour j'allais dire réparer, enfin pour s'occuper des athlètes blessés. Voilà, j'espère que je me trompe pas trop. En plus, ma sœur est kiné, mais je pense que je me trompe pas trop. Nous, on est vraiment sur le côté préparation des athlètes d'un point de vue vraiment qualité physique. Donc, force, endurance, adresse, coordination. C'est vraiment deux voies qui sont différentes. Et après, par contre, en fait, un athlète de très, très haut niveau, parce que là, moi, je travaille avec les équipes de France, donc c'est vraiment le plus haut niveau possible. Il a tout un staff autour de lui. Il va avoir l'entraîneur de son sport. Par exemple, moi, je travaille avec l'équipe de France d'escrime. Donc, ils avaient leur maître d'armes qui leur apprenaient la technique, les kinés pour s'occuper de tout ce qui est massage, vraiment le corps, et moi l'entraîneur physique pour les préparer physiquement pour qu'ils soient très forts sur le terrain.
Et toi, c'était mental aussi un peu ?
Non, il y a toujours une dimension mentale. Je pense que quand on est fort physiquement, on est plus fort dans sa tête, hein, tout est lié. Ils ont aussi des préparateurs mentaux, mais sinon moi je m'occupais vraiment vraiment des qualités physiques et vraiment du côté physique.
Ouais. Donc c'est quoi en fait ? C'est un peu cardio est-ce que ça regroupe aussi l'alimentation à quel point ça entre en jeu en fait ? Enfin, à quel point c'est global, j'ai envie de dire ?
Ouais, bah en fait ça dépend vraiment des athlètes qu'on prépare et de leur sport aussi, parce qu'on va pas préparer pareil un escrimeur qu'un tennisman ou qu'un judoka. Donc on va être très focalisé sur la musculation pour développer la force, l'endurance pour qu'il soit capable d'enchaîner les tournois, les compétitions. L'alimentation ça joue aussi beaucoup parce que bon, pour caricaturer, si tu te manges un McDo, t'es moins en forme derrière pour t'entraîner. L'idée, c'est vraiment de préparer le corps pour qu'il soit au top de sa forme pour les compétitions.
Et comment tu t'es retrouvée à préparer des sportifs spécialisés dans l'escrime ?
Avec un peu de chance, je pense qu'il en faut toujours, et beaucoup de travail. Je savais que ce serait compliqué d'atteindre le très haut niveau, que ce soit en escrime ou dans un autre sport, en tant que femme, parce que mine de rien, donc ça, on parle de ça, c'était en 2011-2012, donc tu vois, il y a quasiment 15 ans. Et des femmes entraîneurs, le sport reste quand même un milieu d'hommes, je pense malheureusement comme beaucoup de choses un peu élitistes. Et voilà, et donc c'était pas gagné en tant que femme d'atteindre ce très haut niveau, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je travaille beaucoup pour pouvoir prétendre à cette carrière. Et en fait, j'étais en master 2 à l'INSEP, j'ai bien réussi mon master 2 en termes de résultats. Et il s'est trouvé que quand je l'ai terminé, l'équipe de France d'escrime, alors que moi, je n'étais pas du tout escrimeuse, j'étais issue du tennis et de la gym, ils recherchaient un préparateur physique. Et ils voulaient, pour la petite anecdote, un préparateur physique femme pour entraîner des hommes. Ils se sont dit, on va tenter une nouvelle expérience pour redonner un petit plus, je sais pas, de motivation, un petit truc nouveau. Et ils se sont dit, nous, on va faire le pari de mettre une femme pour entraîner des hommes. Et comme j'étais là au bon moment, au bon endroit, on a fait un essai et ça a bien marché. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée, voilà.
Et comment ça s'est passé alors justement quand on est une femme et qu'on prépare des hommes qui vont être champions olympiques ?
Bah plutôt bien. En l'occurrence, eux, ils étaient déjà champions olympiques en titre en plus, donc il y avait vraiment une, une grosse pression, exactement, parce que l'objectif c'était qu'ils le soient à nouveau, qu'ils conservent leur titre. J'ai été très bien accueillie. Vraiment, les escrimeurs, je dois dire que ça a été des gentlemen. C'est une jolie discipline, je trouve, l'escrime. Et je me suis pas, alors même s'ils m'avaient embauchée parce qu'ils voulaient une femme, je me suis pas sentie spécifiquement femme. J'étais là pour mes compétences, il fallait que j'obtienne des résultats et j'ai eu de la chance. Je pense que ça se passe peut-être pas partout pareil, mais on m'a jamais fait sentir que j'étais une femme qui entraînait des hommes. Alors de temps en temps, il y a un peu des blagues, plutôt à la fin des entraînements, jamais sur le moment, des trucs un petit peu, voilà, un peu rigolo, mais sinon, non, vraiment, j'étais là pour mes compétences.
Et comment ça s'est passé mentalement pour toi? Parce que t'es toute jeune, tu sors de ton Master 2 et tu te retrouves avec un poste à haute responsabilité. Comment tu t'es sentie psychologiquement?
Très stressée. Je me revois encore la veille du premier entraînement, là, de mes débuts. Je pense que j'étais très stressée, mais j'avais aussi l'insouciance de mes débuts, en fait. J'avais 25 ans et je pense, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je pense que quand on débute, on se rend moins compte des choses, donc j'étais hyper motivée, et c'était un tel rêve, il faut se remettre dans le contexte, on était à 6 mois des Jeux Olympiques de Londres, donc fin 2011 pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012, et c'était incroyable d'être avec ces équipes de France, c'était une vie incroyable, parce que des choses toutes bêtes, mais par exemple le midi à la cantine, bah, je me retrouvais au milieu de Teddy Riner, de tous ces champions d'autres disciplines, donc c'était vraiment un monde... de paillettes, et voilà, c'était incroyable.
Ouais, c'était un rêve.
Exactement, ouais.
Et comment c'est alors? C'est stressant? C'est quoi comme ambiance? C'était un peu colo de vacances en même temps? Parce que si c'est la cantine, c'est comment l'ambiance des JO?
Ouais, bah il y a les deux, en fait. C'est... Alors, colo, j'irai pas jusque-là, parce qu'il y a quand même la pression, mais oui, c'est... En fait, pendant les entraînements, c'est très, très sérieux, parce que t'as le compte à rebours tous les jours qui passent, c'est un jour de moins vers les Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques, c'est vraiment le rêve d'une vie, hein, pour des athlètes. Donc, il y a à la fois beaucoup de pression, mais je pense que les athlètes, ils peuvent pas non plus être tout le temps sous pression, donc en fait... J'ai aussi des très bons souvenirs de soirées qu'on faisait, parce qu'il y avait, comme c'était juste avant les Jeux Olympiques, il y avait beaucoup de parties médias, presse, etc. Et du coup, j'ai des très bons souvenirs de soirées où ça décompressait bien, où là, pour le coup, c'était très, très sympa.
Et petite question, est-ce que vous êtes vraiment par nationalité ou tout est mélangé, tu es aussi avec tes concurrents?
Alors, moi, je n'étais pas présente sur les Jeux Olympiques. Je les ai préparés vraiment pour les Jeux Olympiques et je les ai laissés la veille des Jeux parce qu'il n'y avait pas le budget. Ça coûte tellement cher pour emmener tout le staff complet. Donc, tu vois, par exemple, avec les kinés, on est resté à Paris, on n'a pas été avec Londres. Donc, pour le coup, je t'avoue que je ne sais pas trop. Je pense qu'ils sont quand même... il y a quand même un peu toutes les nationalités, pardon, ensemble.
Et alors, t'as fait ça pendant combien de temps, préparateur de sportif de haut niveau?
J'ai fait ça de 2011 à 2015. C'était prévu que j'aille jusqu'en 2016, mon plan de carrière. J'avais vraiment tout bien prévu. Je suis assez, pas psychorigide, mais organisée. Je m'étais dit que je préparais donc Londres 2012, que j'ai fait avec les escrimeurs. Et après, je visais Rio, donc 4 ans plus tard, en 2016. C'était vraiment mon plan de carrière, d'aller jusqu'à Rio. Et je me suis arrêtée un an avant, en 2015.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, ma reconversion, on est dans le thème du podcast. En fait, un an avant donc les Jeux Olympiques de Rio, j'étais dans une très très grosse période de travail parce que j'entraînais plusieurs équipes de France, je travaillais énormément pour le coup, je travaillais vraiment beaucoup beaucoup, avec beaucoup beaucoup de pression que je me mettais moi aussi moi-même.
T'avais plusieurs disciplines du coup ?
Oui, je travaillais beaucoup avec des tennisman, pas des équipes de France, mais quand même qui avaient un très très bon niveau, et j'étais avec l'équipe de France de tir. Donc voilà, rien à voir, mais voilà, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de travail. Et à un an des Jeux, ça a été très soudain, je me rappelle, comme si c'était hier, un soir, j'étais toute seule dans mon petit appart parisien, et je me suis dit, mais... où je vais, c'est pas cette vie que je veux, même si j'ai toujours rêvé des Jeux Olympiques et que ça a toujours été mon objectif professionnel, mon rêve, et que je travaille très dur pour ça depuis de longues années. Mon plus grand rêve, encore plus que les Jeux Olympiques, c'est de fonder une famille. Et en fait, c'est des métiers, je pense, mais comme dans beaucoup de domaines, quand tu te consacres entièrement à ta vie professionnelle, c'est compliqué de ne pas délaisser sa vie personnelle. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais en train de la délaisser. et de passer à côté de ce rêve de fonder une famille qui était encore plus grand.
Et t'avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 28 ans.
Ah ouais, donc très jeune quand même, hein ?
Ouais, complètement.
Parce que t'aurais pu te dire ça, tu vois, je sais pas, 32, 35, où tu peux commencer à te dire « Ah, je suis pas sûre que je pourrais encore avoir des enfants, faut que je fasse vite » ou 28, t'as encore le temps, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est très pertinent, je trouve, que tu dis. C'est exactement ça. Mais en fait, je me suis pas dit ça parce que il y avait l'horloge biologique, tu sais, comme on peut entendre chez les femmes. Et ce qui se comprend, c'est que moi, j'ai toujours cherché vraiment à être alignée avec la vie que je voulais, avec mes choix. Et à cet instant T, quand j'avais 28 ans, je travaillais déjà avec une coach en développement personnel. Moi, ça fait très longtemps que j'ai une life coach qui est exceptionnelle. Et en fait, voilà, je me suis dit, certes, j'ai 28 ans, mais je veux pas passer à côté de ma vie. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est fonder une famille. Peu importe l'âge, je pense que j'aurais 25 ans, je me serais dit pareil. Moi, ce qui me rendrait le plus heureuse, là, c'est d'avoir mon amoureux et de fonder une famille.
Et est-ce que c'est elle qui t'a posé une question, qui t'a donné le déclic ?
Oui, complètement. C'est en séance avec elle. Je peux la citer parce qu'elle est exceptionnelle. Elle est sur Paris. En plus, elle s'appelle Sylvie Lemaire. Et oui, et c'est en discutant avec elle sur ma vie, autant professionnelle que personnelle, où je me suis dit, mais voilà, moi, là, je veux aussi penser à ma vie personnelle.
Et est-ce que tu as eu l'impression peut-être que tu travaillais beaucoup pour le rêve de ces sportifs de devenir champion olympique et finalement que... Tu vois, tu mettais beaucoup d'énergie à peut-être réaliser le rêve des autres sans forcément penser à toi.
Ah oui, c'est une bonne question. Non, j'ai jamais pensé à ça parce que comme j'avais eu moi ma propre carrière de sportive de haut niveau, certes pas olympique, mais qui m'avait complètement comblée, j'avais aucune frustration à me dédier aux autres. Donc, je pense que c'est comme un médecin qui s'occupe un soignant qui s'occupe de ses patients. Donc, non, j'avais pas cette frustration, pas du tout. Mais c'est vraiment que, à l'époque, je pense qu'on parlait pas de ça. Maintenant, on en parle beaucoup d'être aligné. À l'époque, c'était un petit peu moins à la mode. Mais concrètement, en fait, c'était ça. C'est que ça correspondait plus à ce que je voulais. Et donc, j'ai dit stop hyper subitement. Presque du jour au lendemain, j'ai annoncé à tous les athlètes que je suivais que j'allais arrêter.
Oui, parce que c'était en 2015, donc c'est bien avant qu'on parle de reconversion, d'alignement, de sens.
Ouais, complètement.
C'était hyper tôt.
Ouais, ouais, on mettait pas ces mots-là.
Et quand tu dis ça, bon, j'imagine que tu dois un peu quand même avoir hyper peur parce que tu dis qu'est-ce que je vais faire ? Parce que comme tu es dans un métier hyper spécialisé, si tu t'arrêtes, il n'y a pas vraiment trop de plan B. Comment tu fais un peu pour gérer ça, un peu cette angoisse de ce que tu vas faire après ?
Oui, c'est vrai. Ben, en fait, je crois que je l'ai pas eu. J'ai plus eu l'angoisse d'annoncer aux athlètes que je suivais que j'arrêtais. Ça, c'était plus stressant parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Donc, j'ai plus cette angoisse de dire stop dans mon job actuel que de penser au job d'après. J'étais tellement focus sur le fait... En fait, les choses se sont... Je pense que... J'allais dire, les choses se sont enchaînées. Je pense que quand on est bien aligné, la vie est quand même bien faite. Si tu veux, moi, j'ai... C'était en janvier, je me rappelle, bon, c'était fin de, début 2016, en fait, c'est même pas en 2015. Début 2016, j'ai pris cette décision d'arrêter. Et un mois après, je me suis mise en couple avec mon compagnon qui est devenu mon mari. Et là, c'était parti, j'étais focus sur ma vie personnelle. Donc, en fait, j'étais tellement focus sur, sur ma vie personnelle que je n'ai pas eu trop ce stress de la reconversion.
Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'adore le développement personnel aussi et j'ai lu beaucoup de livres là-dessus et ils disent que justement, parfois par exemple pour les personnes qui n'en rencontrent pas leur conjoint, c'est parce que justement ils n'ont pas de place dans leur vie pour cette personne. Donc en fait c'est super intéressant le fait que tu as fait de la place et juste après tu as rencontré la bonne personne.
Ouais, complètement. Je pense que tout le monde ne croit pas à ça, mais moi je te rejoins complètement. Moi j'y crois beaucoup, je pense que... Quand on prend les bonnes décisions, les choses s'enchaînent bien.
Oui, il faut être prêt à saisir les opportunités.
Bien sûr, ouais.
Et comment ont réagi les athlètes alors ? Parce que ouais, j'imagine qu'ils devaient se sentir un peu laissés tomber.
Oui, certains, oui, certaines. Ouais. Je pense que oui, ça a été difficile. J'allais dire personne n'est irremplaçable, même si je pense... sans prétention que j'étais une assez bonne coach, il y en a d'autres des très bons qui ont pris ma place derrière. Je pense que ça a été dur. Après, c'était logique et cohérent. Moi, j'ai bien expliqué que voilà, j'arrêtais pour me consacrer à ma vie personnelle, d'autant plus que donc j'étais à Paris et en fait mon conjoint est coach de ski, donc à Serre Chevalier, et donc en fait j'annonçais que j'arrêtais pour le rejoindre à Serre Chevalier, donc il y avait cette distance géographique qui faisait que je déménageais, que je pouvais pas continuer à Paris.
Et comment réagit ton entourage ?
Très étonné. Après, je pense qu'ils étaient habitués avec moi que je suis quelqu'un, quand je décide les choses, je les fais. Je pense que j'ai beaucoup de caractère.
Et fonceuse.
Ouais, fonceuse. Voilà, c'est ça. C'est le bon terme. Je suis fonceuse. Donc, je pense que certains se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Elle quitte un job en or, une sécurité à Paris pour rejoindre un gars avec qui elle est depuis un mois au fin fond de la montagne à Serre Chevalier. Ils ont dû se dire ça. Puis ils ont dû se dire aussi qu'ils me faisaient un petit peu confiance.
Ce que je trouve qui est incroyable, c'est qu'en fait, tu as pris la décision sans savoir, en fait. Tu n'avais pas encore la personne, il n'y avait rien de fait, quoi.
Ouais.
Comment tu as réussi à avoir la certitude que c'était la bonne décision ?
Bah, je le savais, je pense, au plus profond de moi, parce que déjà, j'étais heureuse, en fait. Je pense que j'étais apaisée d'arrêter et d'aller vers quelque chose qui me correspondait mieux. Je pense qu'en fait, quand on est... dans cette démarche de développement personnel, ce qui n'empêche pas de beaucoup travailler à côté, parce que je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un truc hyper perché, tu vois. Je pense qu'on sait au fond de nous, enfin, moi, j'aime pas me mentir à moi-même, tu vois, j'aime pas quand on n'est pas honnête avec soi-même ou avec les autres, et je pense que, voilà, je le savais, en fait.
Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais même si on est heureux, on est sûr que c'est la bonne décision, ça n'empêche pas quand même d'être anxieux, angoissé et d'avoir peur.
Oui, complètement.
Les deux peuvent cohabiter.
Oui, complètement. Parce que c'est vrai que l'inconnu fait peur. Donc oui, complètement, l'inconnu fait peur. C'est vrai que quand j'y réfléchis avec le recul, je pense que j'ai quand même eu des petits moments de stress en me disant... Si, parce que c'est vrai que je me rappelle que donc en fait après, je me suis consacrée à ma vie de famille. Je pense qu'on y reviendra et... Quand il a fallu relancer ma carrière professionnelle à Serre Chevalier, parce qu'il fallait bien que je retravaille, puis j'en avais envie, je me rappelle être comme devant un grand vide, tu sais, à te dire, là, faut y aller et va falloir que ça marche, quoi.
Et comment ça s'est passé, donc, mentalement ? Parce que donc, tu te dis que tu t'arrêtes pour te consacrer à ta vie de perso, vie de famille. Comment tu le vis ? Parce que toi, tu étais super carriériste, tu avais l'image de cette fille ambitieuse, carriériste. Comment tu l'as vécu toi, et puis aussi en fonction des autres, un peu des jugements qu'on a pu avoir sur toi, j'imagine aussi.
Ouais, complètement. Bah, c'est vrai qu'en fait, dans un premier temps, j'étais tellement focalisée sur donner naissance à mes enfants que ça me posait pas de problème. Mais après, quand mes enfants ont commencé à grandir, et même quand ils n'étaient pas très grands, qu'ils avaient quelques mois, je me sentais quand même, je me rappelle de moments où je me sentais en décalage avec les autres mamans parce que j'avais quand même ce côté. Très carriériste au fond de moi en me disant « Ok, là, je me consacre à mon nouveau-né, notamment Sacha, mon deuxième, quand il est né. » Je savais tout de suite que je voudrais après reprendre une carrière professionnelle. Et ça, c'était compliqué parce que j'étais entourée de mamans qui étaient mamans à temps plein. Et moi, je pensais déjà à relancer un business, à me relancer. Et du coup, là, je me sentais un peu en décalage. Et c'était compliqué. Je me rappelle aussi, ce qui a été un peu compliqué, c'est que quand je suis arrivée à Serre Chevalier, bah forcément personne me connaissait parce que j'étais pas un nom. Les entraîneurs ne sont pas très connus, c'est plus les athlètes qui sont connus. Et c'est vrai que ça a été compliqué que les gens me disent ah mais toi Julie, t'as pas de travail ici. Alors il y a pas de honte à être femme au foyer ni rien, pas du tout, mais c'est vrai que quand je repensais à la carrière que j'avais avant, j'avais envie de dire mais si, vous vous rendez pas compte, moi j'ai préparé les Jeux Olympiques, tu sais, t'as un peu l'ego quand même qui est titillé et t'as envie de leur dire hey, les gars, si j'ai eu un truc avant, quoi.
Après ça, je trouve que c'est hyper français ce côté dénigrement des femmes au foyer, un peu t'es femme au foyer, tu fais rien. Ouais. Alors que je trouve que dans d'autres pays ce n'est pas vrai, c'est assez valorisé en se disant que l'éducation des enfants, c'est hyper important. C'est aussi français, je trouve, le côté pour montrer que tu fais autre chose en plus.
Ouais, bien sûr. Ouais, tu as raison.
Je trouve pas que ça soit bien, justement, tu vois. Parce que je trouve que femme au foyer, c'est aussi difficile. Enfin,
ah oui, ah bah, c'est clair. C'est très fatigant.
Et comment ça s'est passé quand tu dis que donc au bout de 3 ans à peu près, hein, c'est ça, tu te dis j'ai envie de me relancer.
Ouais, complètement. Quand mon petit garçon a eu 2 ans, donc là je me suis dit mes enfants sont rapprochés. Tu vois, je les ai quand même fait rapprocher parce que j'étais très contente d'avoir des enfants, mais parce qu'aussi j'avais l'idée de relancer ma carrière derrière. Et donc, quand mon deuxième a eu 2 ans, là, je me suis dit, là, c'est le bon moment. Là, j'ai trop envie de retravailler, de relancer une aventure entrepreneuriale. Et j'ai pris une grande décision, c'est de ne pas me relancer dans le monde du sport de haut niveau. Parce que, tu vois, j'aurais pu repartir dans ce que je savais faire, en fait, me dire... Bah, je suis au ski, donc je vais me relancer dans l'entraînement de jeunes skieurs. Et je me suis dit que non, en fait, j'allais fonder vraiment ma propre méthode et partir vraiment sur une clientèle privée. Et donc, en fait, je suis devenue coach sportive, mais très axée sur le bien-être. Donc, du coup, je ne suis plus du tout dans la performance. Je forme plus personne pour la compétition. Mais par contre, mon but maintenant, c'est vraiment d'aider les femmes à être bien dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, en étant en forme, tu vois. Parce que quand on sort d'une séance de sport, d'une séance de coaching, bah, on se sent bien physiquement, on se sent bien dans sa tête et on est prêt à tout déchirer.
Oui, alors aujourd'hui, donc, tu as deux activités. Tu as le côté personal trainer pour... une clientèle de luxe. Alors, tu vas nous en parler un peu après. Et tu as aussi ta plateforme Move with Julie. Et donc ça, c'est accessible à tous. C'est des cours pour tout le monde, justement, pour rendre plus accessible ce que tu fais pour des clients de luxe. Et alors, donc tu as commencé, j'imagine, par personal trainer et la plateforme dans un second temps. Alors, j'avais des questions déjà. Personal trainer pour une clientèle de luxe, alors, ça fait rêver. Et comment on trouve ces clients de luxe pour commencer?
Alors, je n'ai pas que des clients de luxe. Hein. Enfin, et d'ailleurs, non, parce que ça fait comme s'il y avait une hiérarchie. Enfin, moi, j'adore toutes mes clientes. Moi, je coach des hommes aussi, mais qu'ils soient, enfin, peu importe leur profession, etc.
Après, oui, c'est parce que je pense que, je rigole, mais c'est parce que client de luxe aussi, c'est que j'imagine que pour avoir un personal trainer, il faut déjà avoir les moyens.
Bien sûr.
Forcément, c'est un petit peu...
Complètement. C'est pour ça qu'on en reparlera après. C'est pour ça que j'ai créé aussi ma plateforme pour permettre à toutes les femmes et tous les hommes qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps de se payer une personal trainer, de pouvoir faire, bah, en l'occurrence, mes séances à un tout petit coût. Mais c'est vrai que oui, j'ai la chance de travailler dans des hôtels prestigieux, dans des chalets luxe auprès de, bah, d'une clientèle... très aisé, donc c'est vrai que c'est très agréable. En fait, moi, je me déplace à domicile chez les gens. L'idée, c'est parce que j'ai une grosse clientèle de femmes chefs d'entreprise qui ont des gros jobs. Donc, en fait, l'idée de se déplacer chez elles, c'est comme elles sont très, très occupées avec leur job, leurs enfants, bah, ça leur permet de ne pas perdre de temps. Elles ont la coach qui arrive, elles font 1 heure de sport et après, elles peuvent continuer à travailler. Et c'est vrai que pour moi, c'est très sympa parce que du coup, je travaille dans des endroits sublimes. Et voilà, bah c'est très chouette.
Et c'est des personnes qui sont en vacances ou c'est des personnes qui habitent ? T'es toujours à Serre-Chevalier ?
Oui, je suis toujours à Serre-Chevalier. Bah, j'ai vraiment les deux. Il y a beaucoup de gens, oui, qui ont des chalets qui viennent ici en vacances. Tu as des résidences secondaires. Donc, c'est très bien. Ça permet aux gens de faire un peu de sport pendant leurs vacances. Et sinon, j'ai aussi beaucoup de locaux, de gens qui habitent ici et pour qui le sport, c'est rentré... dans leur hygiène de vie, dans leur routine toutes les semaines, parce que c'est important.
Et comment tu as commencé, comment on trouve ses premiers clients? Alors j'imagine au bout d'un moment, ça se fait surtout par bouche à oreille, mais au début, comment tu as commencé?
Je pense beaucoup par le bouche à oreille. Certains connaissaient quand même ma carrière auparavant dans le sport de haut niveau, donc avaient envie d'avoir accès à mes compétences. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Puis après, le bouche à oreille a fait le reste. Et puis aussi, grâce aux réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram, donc à mon nom, Julie Kuckermann. Et c'est vrai que où je poste beaucoup mes séances, un peu mon hygiène de vie, parce que moi, j'essaye d'incarner ce que j'enseigne. Et donc, je suis vraiment très axée sur l'alimentation saine tout en se faisant plaisir, avoir des routines un peu saines au quotidien. Et donc, je pense que c'est comme ça que les gens m'ont connue aussi.
Alors justement, c'est la question que je voulais te poser parce que je trouve que le monde du bien-être, du sport, c'est hyper difficile parce que surtout depuis le Covid, il y a énormément de contenu gratuit. Tu vois, tu as tous les cours de sport gratuits, les cours d'alimentation et j'imagine que ça doit être super difficile d'arriver à se faire rémunérer parce que tu dois à la fois faire du contenu gratuit pour trouver un petit peu, te créer ta communauté, te faire connaître. Et puis après, en plus, il faut faire du contenu plus pour être rémunéré. Ouais. Comment tu fais un peu pour jongler entre les deux? Quelle est ta vision? Parce que moi, j'ai la vision un petit peu client, mais toi, comment tu vois tout ça?
C'est vrai que quand on voit maintenant, depuis le Covid, hein, comme tu l'as dit, la foule de contenu autour du bien-être, que ce soit le sport, l'alimentation, la méditation, le yoga, on se dit, mais c'est vrai que les clients doivent être perdus au milieu de tout ça. Après, moi, j'ai fait le pari que les gens viennent me voir, que ce soit moi en tant que personal trainer ou alors sur ma plateforme Move with Julie, pour vraiment mon expertise et mon identité sportive. Tu vois, moi, en fait, j'ai repris mes compétences d'entraîneur de sport de niveau que j'ai basculé autour du bien-être. Et donc, j'ai vraiment créé ma méthode qui mélange renforcement des muscles profonds, exercices de yoga, de stretching, de pilates, tout ça, au sein de la même séance. Donc en fait, les gens vont venir, certes, ils vont avoir du contenu gratuit, certes, il y a des plateformes qui aujourd'hui coûtent 3 euros par an parce que c'est des multinationales, mais voilà, moi, je me démarque pour ça, je pense que les gens viennent me voir pour vraiment ma méthode, tu vois, et je pense que c'est quand on a vraiment son identité et qu'on a construit son expertise, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire la différence.
Et alors, si on veut s'abonner à ta plateforme, comment ça fonctionne un peu
Alors, la particularité de ma plateforme, et dont j'en suis très fière et très contente, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel. En fait, moi, c'est vraiment... Donc, ma plateforme s'appelle Move with Julie. Vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram Julie Kuikerman.
Oui, je mettrai le lien pour les
auditeurs. C'est sympa. En fait, je suis partie du principe qu'il y a plein de gens qui prennent des abonnements, qu'on paye tous les mois. Ils vont faire 3 séances le premier mois parce qu'ils sont motivés, que c'est bientôt l'été ou alors les bonnes résolutions, on connaît tout ça. Et puis, ils vont s'arrêter au bout de 2 mois. Et au final, ils payent tous les mois et ils oublient d'arrêter leur abonnement parce que c'est comme ça tous les mois. Et moi, je voulais pas partir là-dessus. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment créé des programmes vidéo. Dans chaque programme, il y a, par exemple, 20 séances de 3 niveaux différents pour que chacun y trouve son compte. Là, le dernier programme que j'ai sorti il y a quelques semaines, il s'appelle « Dos étiré, abdos tonifié ». Donc, c'est vraiment pour à la fois étirer le dos et ne plus avoir mal au dos au quotidien et en même temps renforcer les abdominaux parce qu'on veut tout avoir un ventre un peu plus tonique. Et en fait, quand tu achètes ce programme, tu vois qu'il est à tout petit prix, il est à 24 euros alors qu'il y a 20 vidéos dessus. En fait, le programme, il est en accès illimité. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as dans ton espace personnel de la plateforme, bah, tu l'as à vie. Tu vois, t'as pas besoin de repayer un abonnement. Vraiment dans l'idée que ce soit accessible au plus grand nombre.
Et ça a dû être compliqué de mettre en place ta plateforme, tes vidéos. Combien de temps ça t'a pris à peu près de lancer ?
Ah bah beaucoup de temps. j'ai un bon webmaster, merci Jonathan. Sinon j'y ai quand même passé quelques nuits, je dois avouer, l'année dernière pour tout ce qui est filmé, montage, etc. Après c'est l'entrepreneuriat, c'est des projets qui sont passionnants. Je pense que dès que t'as un projet qui est à toi un peu, t'es happé dans le truc et c'est quand même hyper sympa de monter son projet, le commercialiser, chercher à le répandre, que les gens y aient accès, qu'ils t'envoient. Puis après, t'as la récompense. C'est-à-dire qu'au-delà du côté, bien sûr, purement financier, moi, je reçois tous les jours des messages de femmes qui me disent « Julie, j'ai découvert ta méthode, mais c'est incroyable. C'est la première fois qu'on s'étire pendant les séances et qu'on muscle en même temps. Ça fait tellement de bien. C'est hyper gratifiant. »
Oui, tu rentres dans l'intimité des gens en plus quand tu...
Ah ouais, complètement.
Et comment tu organises ton activité aujourd'hui entre personal trainer et ta plateforme ?
Oui, alors en fait, je me consacre 4 jours par semaine vraiment à temps plein au personal trainer parce que j'ai une belle clientèle. Puis je fais aussi en fait des séances en visio comme personal trainer. Tu vois, j'ai des clientes très sympas et très chouettes qui habitent Paris et en fait, on fait ça par Zoom. Donc, je suis de l'autre côté de l'écran et voilà, elles s'entraînent comme ça avec moi. Donc voilà, je fais 4 fois par semaine mon activité de personal trainer et je fais 2 jours par semaine ma plateforme. Après, ça dépend vraiment des moments parce qu'il y a au moment des lancements des programmes, j'inverse un peu, je passe 3 jours par semaine vraiment sur ma plateforme pour y consacrer plus de temps et je réduis un petit peu l'activité de personal trainer. Je pense que c'est l'avantage quand tu as ton compte, que tu es entrepreneur, tu peux vraiment organiser ton temps. Enfin, on essaye d'organiser notre temps comme on peut.
Tu as combien de clients réguliers à peu près en tant que personal trainer ?
J'en ai une 40aine.
Ah oui, c'est beaucoup, hein.
Ouais, c'est beaucoup, ouais. Bah, c'est sympa.
Et ça te plaît alors, les deux te plaisent ? Comment tu te projettes un peu ? Tu te projettes toujours à faire les deux ? Plus ta plateforme ? C'est quoi un peu ton...
Ouais, pour l'instant, je veux vraiment faire les deux. Je veux surtout pas faire que ma plateforme, tu sais, comme on fait certaines coachs, ou faire que du distanciel sur la plateforme. Le côté personal trainer, t'as quand même un côté individualisation qui est passionnant, tu vois. Puis je coach vraiment des femmes de tout profil, tu vois, des femmes... de tous âges, certaines très minces, d'autres qui sont en surpoids. Et tu vois, quand c'est une telle fierté de les voir progresser, de les voir se sentir mieux dans leur vie, juste dans la vie tous les jours, que c'est quelque chose que je ne souhaite pas arrêter pour le moment, j'adore. Donc voilà, je pense que je vais vraiment continuer à faire les deux.
Et c'est quel tarif si les auditeurs veulent faire du personal training avec toi? Est-ce que tu as déjà des dispos encore? Et puis, c'est quelle fourchette de tarif?
Il me reste peu de dispos, mais après, j'ai toujours des clients qui partent, tu sais, en voyage à l'étranger, donc ça libère des créneaux. Une séance d'une heure, c'est 70 euros.
Ah oui, ok. C'est accessible si on a envie de se lancer.
Voilà, c'est un investissement. En fait, c'est des choix. Hein. Après, j'entends que tout le monde n'ait pas les moyens. Après, c'est des choix. Ce qui est bien aussi, c'est que tu vois, j'ai des femmes qui font deux séances par semaine. J'en ai d'autres qui en font une toutes les deux semaines. C'est l'avantage vraiment d'avoir une coach personnalisée. En fait, je pense que le sport, que ce soit avec une personal trainer ou tout seul dans son salon, c'est à nous de nous fixer le rythme qui nous convient le mieux pour que ça dure dans le temps. Moi, je dis toujours aux femmes qui m'appellent ou qui me demandent des conseils, ne partez pas sur un rythme de 3 fois par semaine que vous n'allez pas tenir. Vous allez arrêter au bout de 3 mois parce que on a les enfants, on a le travail, la charge mentale. Il faut partir sur quelque chose qu'on peut tenir. Il vaut mieux faire une fois par semaine, mais s'y tenir toute la vie, plutôt que 3 fois par semaine et arrêter au bout de 3 mois parce qu'on pète un câble et que c'est pas possible de tout faire.
Ouais, la régularité, c'est le plus important.
Et l'indulgence envers soi-même, tu vois. Autant j'ai été coach d'équipe de France où il y avait une rigueur extrême, autant moi, là, maintenant, j'encourage les femmes à certes se mettre un peu de discipline, bien sûr, parce qu'il faut quand même se mettre un coup de pied aux fesses pour aller faire du sport ou aller faire un footing, mais il faut aussi être indulgente avec soi-même et se dire qu'on ne peut pas tout faire.
Ouais. Et alors, aujourd'hui, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel ?
Ce serait de continuer à développer ma plateforme et que les femmes de partout en France et du monde entier puissent avoir accès à ma méthode et la découvrir. Voilà. Et puis aussi d'intervenir un peu plus partout en France, tu vois, de ne pas rester que à Serre-Chevalier, d'intervenir à Paris auprès d'entreprises que j'aime beaucoup, qui n'ont rien à voir avec le sport. Tu vois, par exemple, je pense comme ça, hein, mais tu vois, à la marque M, c'est skincare de Mathilde Lacombe que j'adore. J'aime beaucoup Mathilde Lacombe. J'ai lu son livre, une question d'équilibre, ça me parle beaucoup. Donc, tu vois, c'est voilà, intervenir auprès d'entreprises comme ça qui, je pense, ont des valeurs en commun avec moi, même si moi, c'est le sport et que toutes ces entreprises sont dans un autre domaine.
Et t'aimerais te tourner un peu plus vers le développement personnel aussi, mêler un peu les deux ou pas spécialement?
Non, parce que je pense que c'est une bonne question, hein, mais je pense en toute honnêteté et en toute humilité que j'en ai pas les compétences. J'adore moi en tant que cliente et lectrice, enfin tu vois, comme toi tu disais, c'est quelque chose qui me passionne. Après, comme je te disais, moi j'ai une coach en développement personnel qui est tellement extraordinaire que je lui laisse ça à elle, son domaine d'expertise. Je me vois pas du tout atteindre ce niveau et être performante là-dedans.
Et donc, ça fait combien de temps que tu es suivie par ta coach de vie?
Par Sylvie Lemerer, j'ai commencé en 2014. Ça fait 10 ans.
Ah ouais. Et tu la vois tous les combien de temps?
Alors, c'est très aléatoire, si tu veux. Donc, elle est life coach et c'est pas du tout comme une psychologue que tu vas voir toutes les semaines. En fait, elle a une méthode extrêmement puissante, c'est-à-dire que tu la consultes quand tu as un problème particulier, tu sais, un nœud particulier que tu n'arrives pas à résoudre. Et en fait, une fois que tu as résolu ce problème, bah, si tu n'en as pas pendant 3 mois, tu vas pas l'avoir pendant 3 mois. Donc, moi... Après, elle fait autant le côté pro que le perso. Donc, tu vois, quand je suis dans des phases professionnelles de gros lancements importants, je peux aller la voir une fois par mois, ce qui est déjà très bien. Et sinon, si tout roule pour le côté personnel, je vais peut-être la voir 3 fois par an, pas plus, parce que j'en ressens pas l'utilité.
C'est quel type de questions qui t'aident le plus? Est-ce que, par exemple, moi j'ai jamais été voir de coach de vie, j'imagine que les auditeurs en général non plus. Est-ce que justement tu pourrais peut-être nous donner une ou deux questions qu'elle te pose et qui te font des déclics?
Bah, en fait, c'est tellement personnel, je pense qu'elle a une lecture du corps comme moi j'ai cette lecture pour le côté physique, tu vois. Je fais le lien parce que moi, quand je vois quelqu'un qui vient me voir en séance, je vois tout de suite s'il faut plus travailler les abdos, le cardio, peu importe. Bah, elle, en fait, elle va te voir et direct, presque, elle est incroyable, hein, elle est époustouflante. Tu n'as pas besoin de parler, elle va te dire là, tu n'es pas aligné. Et elle va partir, elle va voir si c'est plus du pro, du perso, et elle va te poser la bonne question pour aller chercher vraiment ce dont tu as besoin. Donc, tu vois, je peux même pas te dire quelle question précisément. C'est vraiment en fonction de toi, des petits freins, tu vois, que tu as dans ta vie. Ce qui fait que tu n'es pas complètement épanoui, heureux.
Ouais, ouais. Les barrières que tu te mets exactement. Tout seul.
Hein. Ouais, parce que des fois, c'est dur soi-même d'avancer.
Non, parce que je me demandais si... Voilà, au fur et à mesure d'un certain temps, toi, tu pouvais aussi un peu t'auto-coacher toi-même, quoi.
Bah, j'essaye. J'essaye, et puis quand je suis... mais jusqu'à un certain point, j'arrive pas à aller au maximum du truc.
Mais c'est vrai que c'est incroyable, parce qu'on... Bon, on n'en entend pas forcément souvent parler, et c'est vrai que ça donne envie d'essayer, en tout cas.
Ah, moi, c'est passionnant, et je le recommande à quiconque, que les gens soient, comme on disait tout à l'heure, mère au foyer, qu'ils aient une grosse carrière. Si vous voulez être... le plus épanoui possible dans votre vie, que, enfin, moi, je le conseille. Moi, cette life coach, là, ce life coaching, il a changé ma vie. Sans pour autant partir sur des trucs complètement perchés, parce que, tu sais, les gens peuvent se dire, ah, c'est du blabla, pas du tout. C'est très puissant. Moi, vraiment, je le conseille à tout le monde.
Et quelle est la différence avec un psy, alors?
J'ai jamais vu de psy de ma vie pour tout te dire. Je pourrais pas te dire. Je pense que là, avec vraiment le coaching mental, life coaching, en fait, on est vraiment sur des trucs très, très concrets. C'est-à-dire, OK, j'ai un problème, et qu'est-ce que je mets en place comme solution pour le dépasser? Moi, je suis quand même très dans l'action. J'ai cet ADN de sportif de haut niveau, tu vois. J'ai besoin que ça avance dans ma vie. Donc, je vais pas aller fouiller dans mon enfance, qui de toute façon était très heureuse, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu vois, c'est vraiment, OK, là, je suis bloquée. D'un point de vue personnel, avec mon mari, mes enfants, peu importe, qu'est-ce que je mets en place? D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que je mets en place pour développer ma plateforme, pour grossir, pour, tu vois?
Oui, oui, c'est plus dans l'action, alors que le psy, ça sera plus essayer de comprendre les raisons, le fonctionnement, décortiquer.
C'est ça, voilà. Moi, j'ai besoin qu'on m'apporte des solutions pour avancer. J'ai pas le temps ou j'en ai pas envie, je pense, d'aller chercher à comprendre. J'ai besoin de... Enfin, pour avancer, il faut quand même comprendre d'où vient le problème. Mais une fois qu'il est compris, moi, je veux toujours avancer, avoir des nouveaux projets. Moi, c'est ça. Et je pense, comme plein de monde, hein, c'est ce qui me motive, tu vois, avoir toujours des nouveaux projets.
Alors, sur le même sujet un petit peu, et c'est là toujours la dernière question du podcast, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Vaste question.
Tu peux prendre le temps de réfléchir un petit peu.
Non, j'avais quand même un peu réfléchi parce que j'ai quand même écouté beaucoup d'épisodes de ton podcast que j'apprécie beaucoup. Une fois, on m'a dit cette phrase que j'ai trouvée très belle. On m'a dit « Ta sécurité, c'est ta liberté ». Je trouve ça très joli, c'était par rapport, et c'est en lien, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est en lien avec le thème de ton podcast, Oser la reconversion. C'est-à-dire que, oui, ma sécurité, ce qui fait en sorte que je suis en sécurité affective, que je suis bien, ben, en fait, ça va être ma liberté dans mon travail. Tu vois, j'ai quitté un job bien installé à Paris, très sécuritaire, où j'avais un très bon salaire, je bossais avec des fédérations, etc. Aujourd'hui, je suis complètement à mon compte, j'ai ma clientèle privée, j'ai ma plateforme, je sais pas où ça va m'amener, très loin, j'espère et j'en suis presque sûre, mais voilà, cette liberté, moi, ma sécurité, c'est cette liberté. Après, c'est très personnel, t'as des gens, leur sécurité, ça va être d'avoir un job, un CDI, enfin, tu vois, mais moi, ma sécurité, c'est ma liberté.
Oui, c'est super intéressant parce que ça change le point de vue, en fait, finalement, de se dire que finalement, est-ce que quand on n'est pas libre en faisant quelque chose qu'on n'aime pas, est-ce que finalement on se sent en sécurité?
C'est exactement ça, complètement. Je pense qu'en fait, c'est une fausse sécurité. Pour certaines personnes, là encore, je pense que c'est vraiment à chacun de trouver sa voie. Il y a des gens qui, en étant fonctionnaires, en ayant leur boulot de 9h à 17h, sont très heureux comme ça. Moi, ça me correspond pas et je me sens pas libre.
Après aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'aussi ça dépend des moments de vie. Tu vois, par exemple, toi, tu as eu un moment de vie où ta sécurité, c'était d'arrêter ta carrière pour ta famille et finalement, il n'y a pas de vérité pour toute la vie non plus.
Je suis tout à fait d'accord, complètement. Je pense que exactement, il faut évoluer. Et autant qu'aujourd'hui, j'ai 37 ans, quand j'aurai 50 ans, bah, j'aurai envie de quelque chose de beaucoup plus calme parce qu'être à son compte aussi, c'est quand même beaucoup de pression, c'est des montées d'adrénaline. Moi, j'adore ça, mais c'est vrai que je pense que tous les entrepreneurs un peu le disent, quoi. C'est dur quand même de débrancher le cerveau, même en week-end, en vacances. Et peut-être que plus tard, j'aurais envie de quelque chose de beaucoup plus posé et en me prenant un petit peu moins la tête.
Ouais, et ce sera ta sécurité.
Exactement, ouais, complètement, à ce moment-là, ouais, on en reparlera à ce moment-là.
Un grand merci Julie, donc je mettrai tous les liens pour les auditeurs qui voudraient te découvrir sur tes réseaux, sur ta plateforme ou peut-être prendre un cours avec toi. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé.
Et ben merci à toi, c'était très sympa.
Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S @oserlareconversion.com.